Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Luc. Texte de la liturgie catholique romaine pour le 17e dimanche. Un jour, quelque part, Jésus est en prière. Quand il a fini, un de ses disciples lui dit
« Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. »
Il leur dit
« Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain du jour qui vient. » Remets-nous nos péchés, car nous-mêmes remettons à celui qui nous doit. Fais que nous ne venions pas dans la tentation.
Il leur dit encore,
« Qui parmi vous a un ami et va vers lui en milieu de nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains. Un ami à moi est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et lui, du dedans, répond et dit, « Ne me tracasse pas, la porte est déjà fermée, nous sommes au lit, mes enfants et moi. Je ne peux me lever pour te donner. » Je vous dis, même s'il ne se lève pas pour lui donner parce qu'il est son ami, eh bien, du fait de son sans-gêne, il se mettra debout pour lui donner ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez, et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez, frappez et la porte vous sera ouverte. Car tout demandeur reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe il sera ouvert. À quel père d'entre vous le fils demandera un poisson et qui lui donnera un serpent au lieu d'un poisson? Ou encore il demandera un œuf et il lui donnera un scorpion? Si donc vous, mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera le Saint Souffle spirituel à ceux qui lui demandent. Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges.
Notre Père, une prière on ne peut plus brève encore dans la version de Luc que dans celle de Matthieu. La version de Matthieu étant celle que la liturgie a retenue et que nous avons apprise par cœur. Notre Père, une prière brève. Jésus n'avait-il pas dit à ses disciples, quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils pensent être exaucés par un flot de paroles. Notre Père, une prière qui est donc dans la manière de Jésus, qui fait cela simple, n'a-t-il pas en effet ramené les 613 préceptes de la Torah à 2 grandes règles, aimer Dieu et aimer son prochain, en nous disant que c'est là toute la loi et les prophètes. Et ce sera toute la loi, toute la Torah et les prophètes qui en seront le commentaire et l'application. Mais où se trouve ce passage dans le récit de Luc? Dans le récit de Matthieu, le Notre Père se trouve à l'intérieur de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Il vient interrompre d'ailleurs l'enseignement où Jésus exprime quelle doit être la conduite de ses disciples en ce qui concerne les 3 grands piliers de la religion que sont l'aumône, la prière et le jeûne. En Luc, le Notre Père se trouve aussitôt après l'épisode de Marthe et Marie, un épisode qui illustre la priorité de l'écoute de la parole dans les repas sacrés. Cette écoute de la parole est non seulement l'expression de l'amour de Dieu, mais la source où le disciple puise la force d'aimer non seulement Dieu, mais aussi ses frères et ses sœurs. La prière personnelle vient donc comme compléter cette recherche de la communion avec le Père. Le lien entre les deux épisodes est sans doute dû au travail de rédaction de Luc. En effet, il ne situe pas d'une façon précise le lieu où Jésus va donner cette formule de prière. Il nous dit « un jour, quelque part, Jésus est en prière ». On peut peut-être comprendre que le lieu de la prière est partout. Dans le récit de Jean à la Samaritaine, Jésus dira en effet que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Luc est l'évangéliste qui parle le plus de la prière de Jésus. Il nous montre en effet Jésus priant lors de grands événements comme le baptême, le choix des 12, la transfiguration, l'agonie. Mais il nous dit aussi que la prière de Jésus est quotidienne.
Le jour venu, il sort et va dans un lieu désert. Quant à Jésus, il se retirait dans les déserts et priait.
Quand il a fini de prier, cette fois-là, un de ses disciples lui dit « Seigneur, apprends-nous à prier », comme Jean le Baptiste l'a appris à ses disciples. Les rabbis, en effet, avaient coutume de composer de courtes prières pour leurs disciples. Des prières en formules courtes, un peu comme les mantras, des formules qu'on récite en les répétant pour pouvoir mieux se concentrer sur cette conscience que Dieu nous est présent. Les disciples demandent donc une prière qui les distingue un peu des disciples des autres rabbis, une sorte de marque d'identité. Et, de fait, la prière de Jésus ne sera pas très originale, pas très particulière. Elle est composée de formules qu'on retrouve dans les prières juives et notamment dans celle du Kaddish, la prière que le juif récite chaque jour. Voici quelques formules du Kaddish.
Que sanctifié soit son grand nom dans le monde, qu'il a créé selon sa volonté. Qu'il fasse régner son règne et germer son salut, que son Messie s'approche.
Dans sa très grande simplicité, le Notre Père pourra donc devenir la prière de tous les croyants. Remarquons d'ailleurs que le Notre Père est une prière communautaire. Dans le Notre Père, non seulement on ne prie pas pour soi seulement, mais encore, on emploie le « nous ». On se trouve priant devant Dieu dans la communion de tous les disciples, de tous les croyants. On pourra même dire la prière dans la communion de tous les humains, de tous les temps et de tous les dieux. Nous ne disons pas non plus « mon Père, mon pain ». Nous prions pour tous, unanimes, ce qui veut dire d'une seule voix devant Dieu. La prière que ne conduit pas les humains à être un, à devenir frères et sœurs, n'est pas une prière que Dieu peut exaucer. Pourtant, même si le Notre Père est une prière simple, il n'en reste pas moins que son langage est issu de la culture biblique et que c'est un langage qui n'est pas toujours compris immédiatement par les gens de notre temps. Alors tentons de donner le sens le plus généralement admis de chacune des invocations.
Père, que ton nom soit sanctifié.
Saint Augustin disait
« Les hommes ne peuvent dire notre Père vraiment et filialement que s'ils se reconnaissent frères entre eux. »
Mais il est encore plus vrai de dire que ceux qui reconnaissent Dieu comme leur Père, alors ceux-là vont développer des relations de frères et sœurs entre eux. Car la fraternité humaine est difficile quand elle se fait sans Père. On sait bien le rôle des parents dans les grandes familles. C'est le père, la mère, qui réunissent sans cesse les frères et les sœurs, et souvent pour les repas de fête.
Mais qu'est-ce que nous mettons sous ce mot de père?
Comment vivons-nous notre relation avec Dieu? Le père, dans la culture de la Bible, on le sait, ce n'est pas d'abord quelqu'un qui engendre physiquement. Le père est celui qui est l'éducateur, le transmetteur de la Torah, c'est-à-dire de la règle de vie donnée par Dieu. Le Père, c'est le gardien de la tradition de la sagesse. La Mère, C'est celle qui va aider à vivre la Torah, qui va la traduire dans les petits gestes quotidiens. Aujourd'hui, à notre époque, ce merveilleux rôle des parents, ce rôle de la famille, est le plus souvent relayé par l'école, surtout lorsque les progrès de la connaissance se sont développés si vite que les jeunes adolescents peuvent facilement penser en savoir plus que leurs parents. Aujourd'hui, notre civilisation de la télévision et de l'informatique fait que le rôle des parents malheureusement diminue. Ce sont souvent les téléromans qui transmettent des façons de vivre. Et ce sera sur Internet qu'on va chercher son gourou. Le disciple de Jésus doit savoir que tous les pères de la terre, tous les maîtres à penser, doivent céder la place au seul Père qui est la source de la vraie sagesse, Dieu. Jésus l'a dit à ses disciples, « N'appelez personne Père, vous n'avez qu'un seul Père. » Personnellement, j'aime bien poser cette question lors d'un baptême. « Depuis quand sommes-nous fils ou filles de Dieu ?» Et on répond généralement « Depuis notre baptême. » Mais parfois, pour ne pas faire de différence entre les chrétiens et les autres, et les non-chrétiens, on répond qu'on est fils de Dieu depuis notre naissance. Personnellement, je préfère dire qu'on devient fils, fille de Dieu. On ne l'est pas. On le devient, et cela chaque jour. Dans la mesure où l'on accueille la parole de Dieu comme la règle de notre vie, dans la mesure où l'on se conduit selon l'Esprit de Dieu. Dieu, lui, est notre Père depuis notre conception, parce que nous sommes aimés par lui depuis toujours. Mais devenir fils, fille de Dieu, cela suppose notre liberté, un oui à Dieu, qui soit pleinement libre. Dieu notre Père, je veux devenir ton fils, je veux recevoir ton esprit pour devenir ta fille. Cela rappelle le prologue de l'évangile de Jean.
À ceux qui accueillent sa parole, elle donne de devenir enfants de Dieu. Elle les engendre comme fils, filles de Dieu.
Donc, dire le premier mot de la prière de Jésus, « Notre Père », c'est déjà un engagement, et un engagement radical au sens qu'il va nous transformer à la racine de notre être. C'est un engagement à nous laisser engendrer par Dieu, à recevoir son esprit, et à vivre par, selon cet esprit. C'est en devenant ses fils et ses filles que nous pouvons apprendre à réellement connaître Dieu. Jésus nous fait connaître Dieu parce qu'il est, lui, le Fils, le bien-aimé du Père.
Personne ne connaît le Fils si ce n'est son Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est son Fils.
Croire en Dieu, pour le disciple de Jésus, c'est pénétrer peu à peu dans l'intimité du Dieu Père en apprenant à connaître et à agir selon son esprit. Sommes-nous assez conscients de ce mystère incroyable? Non seulement nous sommes des créatures de Dieu, mais nous pouvons devenir son fils, sa fille, et cela pour l'éternité. Nous pouvons renaître divins, renaître de la race de Dieu, et pour une vie immortelle.
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne advienne.
Quel vœu Jésus nous invite-t-il à formuler? Quel vœu pour Dieu, pour nous? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, les deux formules sont proches. Ces deux vœux, il appartient et à Dieu et à nous qu'ils puissent se réaliser. Une prière juive du rituel séfarade explique bien cela.
Tu es saint, ton nom est saint. Et les saints te glorifient tous les jours. Ils proclament ta royauté dans tous les siècles. Car toi seul es le Dieu très haut et le Dieu saint. Que ton nom soit sanctifié par ton peuple. Fais que tous, d'un commun accord et avec un cœur sincère, ils accomplissent ta volonté sainte. Seul, ô Éternel, tu régneras sur toutes tes œuvres.
Sanctifier le nom de Dieu, cela veut dire manifester la sainteté de Dieu. D'une certaine façon, nous ne pouvons rien ajouter à la sainteté de Dieu, il est parfait. Et pourtant, nous pouvons cacher la sainteté de Dieu, déformer le visage de Dieu, car la conduite des fils de Dieu n'est pas toujours une conduite digne de leur foi. Oh, il y a bien sûr les guerres de religion, la violence prêchée au nom de Dieu. On se souvient que les ceinturons des nazis allemands portaient l'inscription « Dieu avec nous ». Mais il y a aussi l'intolérance de certains croyants. Il y a les injustices, les amitiés trahies. Il y a tous les contre-témoignages de nous tous qui sommes son Église. La désunion, les condamnations, les exclusions, l'absence de miséricorde. Tout ce qui défigure le visage de l'être humain défigure aussi le visage de Dieu. Et tout ce qui grandit l'être humain, tout ce qui fait grandir l'amitié, la fraternité entre les humains, tout cela sanctifie Dieu, fait grandir le renom de Dieu sur cette terre. « Soyez saints et parfaits comme moi je suis saint », nous dit la Bible. Saint Irénée avait cette belle formule.
La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et la vie de l'homme, c'est de rendre gloire à Dieu.
Que ton nom soit sanctifié, c'est donc demander à Dieu la force de vivre de son esprit, de son amour, et c'est donc faire advenir son règne.
Que ton règne vienne.
Quelle image avons-nous dans la tête lorsque nous parlons du règne de Dieu? Les royaumes de cette terre ne sont pas une aide bien grande pour comprendre le règne de Dieu, car ce règne de Dieu n'est pas justement comme les royaumes de ce monde. Dans ce monde, il y a le règne de l'argent, le règne de la violence. Le règne de Dieu dans la culture juive est lié à la pratique de la Torah, c'est-à-dire de la règle de vie de Dieu. Dans la langue française, les mots « roi »,« règne » ont comme racine « rec », qui signifie ce qui est droit, que l'on trouve dans « rectiligne »,« dirigé », etc. Le roi est celui qui dirige dans le droit chemin, celui qui fait respecter les droits de tous, et spécialement les droits des gens qui ont perdu leurs droits, comme les veuves, les orphelins. À l'époque des bons rois d'Israël, le roi est celui qui voit à la subsistance des pauvres. La règle de vie, c'est donc le texte qui dit comment vivre droitement, qui donne les balises d'une conduite morale qui soit droite et généreuse. Le royaume de Dieu, c'est la grande famille de ceux qui vivent selon la règle de Dieu. Et d'ailleurs, dans la langue de Jésus, en araméen, c'est le même mot malkouta qui dit à la fois règne et règle. On va voir combien le règne de Dieu est lié à sa paternité. En effet, c'est le Père qui est celui qui transmet la règle de vie, la Torah, à son enfant. Et le roi est celui qui fait respecter la règle, la Torah, pour tous les sujets de son règne. Le roi est donc le père de son peuple, en ce qui lui donne la règle de la sagesse. Moïse avait formé son peuple en lui disant qu'il n'aurait pas d'autre roi que Dieu. Lorsque les Juifs ont réussi à convaincre Samuel à consacrer quelqu'un pour en faire leur roi, ce roi qui tenait lieu du Dieu roi et qu'on a appelé Messie, a été considéré comme fils de Dieu. Le peuple de Dieu, qui a Dieu pour roi père, sera aussi appelé le fils de Dieu. Ainsi donc, tous ceux qui vivent selon la règle de Dieu, tous ceux qui deviennent ses fils, tout cela font advenir le règne de Dieu sur terre comme il est au ciel.
Donne-nous chaque jour le pain du jour qui vient.
De quel pain s'agit-il? De la nourriture corporelle quotidienne ou bien de la nourriture spirituelle qu'est la parole de Dieu? La question est ouverte. La Bible nous invite à travailler pour le pain, la nourriture qui est nécessaire à la vie de nos corps. Mais nous dit la Bible sans vouloir accumuler, comme la manne au désert qui était cueillie seulement pour la nourriture d'un seul jour. Un texte des Proverbes traduit bien cela.
« Ne me donne ni la pauvreté ni la richesse. Remets-moi ma ration de pain pour ce jour, de peur que, rassasié, je ne trahisse et ne dise « Qui est Dieu ?» ou que, privé, je n'en vienne à attenter au nom de Dieu. »
Jésus nous inviterait alors à chercher le nécessaire pour notre vie comme un don de Dieu et à ne pas nous distraire du nécessaire par la course aux biens de consommation. Mais dire « donne-nous », c'est aussi un engagement à partager le pain pour que chacun ait sa ration quotidienne. Le « j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger » est un impératif de l'amour et de la solidarité entre tous ceux que le Père divin unit. Voilà si la formule du Notre Père signifie la nourriture corporelle. Cependant, il est bien certain que tout l'Évangile parle surtout du pain comme étant le symbole de la parole. Souvenons-nous de la réponse de Jésus au tentateur.
L'être humain ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Et souvenons-nous de la catéchèse faite par Jésus après la multiplication du pain.
Travaillez pour la nourriture qui demeure pour la vie d'éternité, celle que le Fils de l'homme vous donne.
Cela peut donc nous conduire à adopter une des traductions possibles de cette phrase du Notre Père. Donne-nous chaque jour le pain du jour qui vient. Mais il ne s'agit pas là de demander du pain pour le lendemain. Le jour qui vient est une expression biblique qui désigne la vie d'éternité à laquelle Dieu nous invite. Pour vivre d'éternité, il nous faut chercher la nourriture spirituelle, accueillir la parole de Dieu chaque jour et apprendre à en vivre pour faire de chaque journée un jour qui aura valeur d'éternité. Voilà d'ailleurs ce que nous célébrons dans le repas du Seigneur, l'accueil de la parole de Jésus qui est nourriture, qui est pain de vie, parce qu'elle nous donne la vie de Jésus, une vie qui est donnée, qui est livrée par amour.
Remets-nous nos fautes, car nous aussi nous remettons à celui qui doit.
Arrêtons-nous à la deuxième partie de la formule qui peut sembler surprenante. Car nous aussi nous remettons à celui qui doit. Une formule qui, dans l'écrit de Matthieu, se dit « Remets-nous comme, pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons ». Alors faut-il penser qu'on suggère à Dieu d'agir comme nous et qu'on se donnerait comme modèle de pardon « Pardonne-nous aussi bien que nous pardonnons ». Bien sûr que non. Mais cette formule nous fait prendre conscience que nous ne pouvons pas être pardonnés si nous refusons de pardonner à nos frères. Rappelons la parabole du serviteur qui devait une vraie fortune à son maître. Celui-ci lui fait crédit de sa dette. À peine sorti de chez son maître, ce serviteur rencontre un de ses collègues qui lui doit une faible somme. Et comme ce collègue ne peut rembourser, il le fait jeter en prison. Alors le maître rappelle ce serviteur et lui dit « Puisque tu n'as pas remis à ton frère, tu ne peux pas bénéficier de ma remise de dette. » En effet, on ne peut pas, en même temps, accueillir l'amour gratuit de Dieu et refuser cet amour à nos frères. Il y a là une contradiction, une impossibilité, de la même façon qu'une porte ne peut être, en même temps, ouverte et fermée. Accueillir le pardon de Dieu, c'est justement être remis dans la communion de l'amour. Qui ferme son cœur à la miséricorde, au pardon, montre par là qu'il n'a pas vraiment accueilli le pardon de Dieu pour lui-même. C'est se condamner soi-même que de refuser de pardonner. Le livre de la Sagesse disait déjà cela.
Quand nous jugeons que nous pensions à ta bonté, quand nous sommes jugés que nous comptions sur ta miséricorde.
Et l'Évangile dira, de la mesure que vous mesurez, on mesurera pour vous.
Fais que nous ne venions pas dans la tentation.
Écartons tout de suite une mauvaise interprétation. Ce n'est pas Dieu qui tente l'être humain. La traduction liturgique ne nous soumet pas à la tentation et donc ambiguë. Littéralement, le texte grec dit « fait que nous ne venions pas dans la tentation, fait que nous n'entrions pas en tentation ». Dieu est celui qui vient à notre aide à l'heure de la tentation. Mais Dieu ne peut pas supprimer la tentation, car il supprimait alors notre liberté.
De quelle tentation s'agit-il ?
De tout ce qui peut conduire à refuser d'aimer, de tout ce qui peut être contraire à l'amour, aussi bien l'amour de Dieu que du prochain. Mais cette tentation, c'est surtout la tentation suprême, le doute que Dieu soit amour. Douter que l'amour soit vraiment possible et que cet amour soit plus fort que le mal. C'est la tentation que Jésus a vécue au jardin des Oliviers. La formule y a la même. Prier pour ne pas entrer en tentation, recommande-t-il à ses disciples. N'est-ce pas une tentation plus fréquente qu'on pourrait le penser a priori? En effet, quand nous voyons les crimes perpétrés de sang-froid contre des populations entières, ce qu'on appelle pudiquement la purification ethnique, quand on entend les propos de ceux qui prêchent la violence, de ceux qui appellent à la vengeance et proclament des attentats aveugles contre des innocents, quand on voit les injustices cyniques de certains grands propriétaires terriens, en Amérique latine notamment, qui exploitent hommes, femmes et enfants et les réduisent à leur merci, on se met alors parfois à douter de la victoire de la non-violence et du dialogue pour faire justice, à douter de la possibilité de la réconciliation, et on se demande si le message de l'Évangile ne serait pas irréaliste et utopique, et on se met à perdre l'espérance.
À cette heure, Père éternel et tout aimant, ne permets pas que nous soyons un jour coupés de toi et de ton amour. Garde-nous d'entrer dans la tentation, cette tentation que Jésus a vécue à Gethsémani. En cette heure de ténèbres, Jésus a-t-il douté que cette mort d'amour qu'il allait vivre serait vraiment une source de guérison pour les cœurs? A-t-il douté que sa mort serait une source d'amour assez forte pour transformer les égoïstes en êtres solidaires, pour convertir des êtres injustes en gens respectueux du droit et des violents en artisans de paix? Ô Dieu du ciel et de la terre, à l'heure de la tentation, fais-nous voir ton visage de Père tout-puissant en bonté et ravive en nos cœurs l'indéfectible espérance qui mettra sur nos lèvres ton nom, Abba, Papa. C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission La cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
514-256-4110. Vous nous trouverez également sur Internet, notre site www.relaismontroyal.com. Relais Mont-Royal en un seul mot et sans trait d'union.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.